Bonsoir à toutes et à tous, ici Théophile Massat sur Radio Campus Paris.
Il est 19h et tout de suite, c'est la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Septembre 1985. Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche, lance un appel à la radio autour d'un projet de cantine gratuite. C'est la naissance des Restos du Cœur et d'un élan collectif que l'humoriste préfère qualifier de redistribution plutôt que de solidarité. La nourriture donnée à manger est de la nourriture produite en trop et qui est non distribuée pour des raisons économiques. Coluche affirme même que c'est bien la moindre des choses que cet excédent soit mangé par celles et ceux à qui la société n'a pas trouvé de travail. Alors, que dirait-il 40 ans plus tard et que les Restos du Cœur sont non seulement toujours ouverts, mais que ces plus de 70 000 bénévoles doivent aujourd'hui faire face à une explosion du nombre de demandes? Qu'aurait-il dit lorsqu'en 2023, après avoir distribué plus de 170 millions de repas, l'association se retrouve dans une telle difficulté financière que c'est l'homme le plus riche du pays, Bernard Arnault, qui s'est présenté en sauveur avec un chèque de 10 millions d'euros? Une séquence qui incarne bien la manière dont l'urgence d'hier est aujourd'hui devenue la norme. La réponse exceptionnelle à une situation d'urgence est aujourd'hui devenue le moyen de se nourrir pour plus de 7 millions de personnes. Une situation d'autant plus absurde lorsqu'elle est mise en perspective avec les 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année. Les réformes agricoles successives ont transformé l'agriculture. Les modestes fermes paysannes ont dû laisser place aux grandes exploitations de l'agro-industrie. Un modèle qui, au-delà d'être néfaste pour la biodiversité, fait des ravages chez les personnes qui y travaillent. Car pour produire assez, les politiques agricoles obligent à produire trop. Résultat, les prix de vente chutent et nos agriculteurs se retrouvent étranglés par leurs dettes. Face à ce système alimentaire maltraitant d'un bout à l'autre de la chaîne, la résistance s'organise. Tous les jours, de nombreuses organisations d'aide alimentaire se serrent les coudes pour essayer de donner un accès à l'alimentation à celles et ceux qui en ont besoin. Mais les moyens sont limités et toutes ces forces de travail mises bout à bout ne suffisent pas. Et pour cause, ce ne sont pas des bénévoles, mais bien la puissance publique de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour garantir ce droit à l'alimentation. Elle en a même pris l'engagement dans plusieurs textes, comme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais alors, que faire face à un État défaillant qui s'accommode de l'existence de ce marché de la faim qui permet à l'agro-industrie d'écouler ses invendus? Depuis quelques années, une idée fait son chemin, celle de la sécurité sociale de l'alimentation. Fini les politiques sociales basées sur le don. Ce sont désormais les citoyennes et citoyens qui prennent collectivement en charge le fait de garantir à toutes et tous un accès digne à une alimentation choisie, saine et durable. Une idée qui peut paraître étonnante ou bien abstraite, mais qui est pourtant très concrète avec de nombreuses expérimentations sur le terrain. À l'heure où le système agricole français craque, que les files d'attente aux distributions alimentaires sont toujours plus longues et que l'impératif du dérèglement climatique se fait de plus en plus pressant, dans quelle mesure une telle initiative permettrait-elle de repenser l'ensemble du système alimentaire et de remettre un peu de démocratie dans nos assiettes? Et c'est une matinale pas comme les autres que nous vous proposons ce soir. Nous sommes en direct des locaux de La Copine, un restaurant solidaire qui propose aux étudiantes et étudiants des repas à prix réduit dans le 14e arrondissement. L'occasion de nous imprégner de ce lieu pour mieux comprendre la précarité alimentaire et pourquoi elle est indissociable de notre manière de produire et de distribuer l'alimentation. Quelle place y occupent les associations d'aide alimentaire d'hier et d'aujourd'hui et dans quelle mesure la perspective d'une sécurité sociale de l'alimentation pourrait être transformatrice? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Astrid Olinier. Bonsoir Astrid.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de plaidoyer pour un accès digne à l'alimentation au Secours catholique et vous êtes accompagnée de Charles Cuvillier. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Vous êtes aussi chargée de plaidoyer, mais à l'association COPE. Merci à vous deux d'être présents. Je serai aussi accompagné de Yamina de Radio Campus pendant cet échange. Échange qui débutera par l'intervention de Mustapha et qui sera ponctué par le reportage de Lia Rosin-Pilot qui s'est rendue dans une cantine participative à Pantin. Quel programme bien rempli, alors ne perdons pas une minute de plus.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Voilà donc 40 ans que les Restos du Cœur ont été créés. Et si c'est bien Coluche qui a porté cette initiative médiatiquement à l'origine, c'est bien aujourd'hui les bénévoles qui les font exister chaque jour, un constat valable pour l'ensemble des organisations d'aide alimentaire. D'ailleurs, nous avons le plaisir d'avoir Mustapha avec nous autour de cette table qui est venu pour nous donner quelques informations.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble autour de cette table pour en savoir plus sur la sécurité sociale de l'alimentation. Mais avant toute chose, il faut définir ce à quoi beaucoup de personnes font face tous les jours, la précarité alimentaire. La précarité alimentaire, ce n'est pas avoir assez d'argent pour choisir librement sa nourriture, notamment des aliments variés et de qualité. En France, aujourd'hui, cela concerne près de 8 millions de personnes, un chiffre qui augmente chaque année avec l'inflation et des salaires qui stagnent. La précarité alimentaire, ce n'est pas avoir la possibilité de choisir le moment ni le contenu de ses repas. C'est aussi aller aux distributions alimentaires, parfois plusieurs fois dans la semaine, même en plein hiver, dans le froid, pour remplir un sac de courses avec des aliments que l'on n'a pas choisis. Les plus touchés, les familles monoparentales, les travailleurs pauvres, les retraités avec de petites pensions, mais aussi et particulièrement les étudiants. Nous nous souvenons de l'émotion suscitée par les images de files d'étudiants lors des distributions alimentaires pendant le Covid, car dans l'imaginaire collectif, l'aide alimentaire était jusqu'alors synonyme d'extrême pauvreté et semblait concerner une toute petite partie de la population. Sauf que cette image s'est fissurée avec l'explosion des prix de la nourriture, de l'énergie et du logement. Ces hausses touchent tout le monde de plein fouet, mais avec pas le même impact sur le budget. Les étudiants et les étudiants voient presque l'intégralité de leur budget passer dans le loyer et nombreux sont ceux qui doivent sauter des repas, renoncer à se chauffer l'hiver ou encore ne pas pouvoir acheter des produits d'hygiène pour tenir financièrement. Des situations de précarité aux nombreux impacts sur la santé physique et mentale et que des politiques publiques limitées à l'austérité budgétaire dans un contexte d'inflation ne font qu'aggraver. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup, Mustapha.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Merci beaucoup, Mustapha, pour cette intervention. Désormais, nous accueillons Yamina autour de cette table. Je crois qu'en écoutant Mustapha, vous souhaitiez réagir.
Oui, bonjour à tous. Alors, tout à fait, suite à cette présentation de la précarité alimentaire en France, est-ce que vous pourriez nous dire et nous présenter vos organisations et quel rôle jouez-vous dans vos associations respectives ? Commençons par Charles, si vous voulez bien.
Moi, je m'appelle Charles, je suis bénévole dans l'association Copains Solidarité Étudiante. Donc, c'est une asso qui lutte contre la précarité étudiante partout en France. Et donc, je suis membre du bureau national de l'association. Donc, on est 8 étudiants et jeunes élus pour un mandat d'un an pour aider sur différentes missions au niveau national de l'association. Donc, moi, cette année, je suis référent des antennes en Ile-de-France. Donc, on a 7 antennes qui font de la distribution alimentaire et un restaurant, la copine où on est ce soir. Et je m'occupe aussi, avec d'autres bénévoles, du plaidoyer de l'association.
Merci, Charles. Astrid ?
Je m'occupe principalement des questions de plaidoyer et de mobilisation sur la lutte contre la précarité alimentaire. Et pour revenir très simplement sur la mission du Secours catholique, c'est de lutter contre les sources, en fait, contre les origines de la pauvreté. Et donc, pour ce qui est de la lutte contre la précarité alimentaire, ça va vraiment d'agir sur toutes les dimensions, en fait, qui font qu'une personne est en précarité alimentaire, comme l'a souligné Mustapha précédemment.
Très bien. Pour revenir justement à la présentation de Mustapha en introduction, il nous a fait part encore une fois de ce qui s'est passé pendant le Covid par rapport à toutes les images dans les médias qui a révélé justement tous les étudiants et les étudiantes qui étaient justement dans les files d'attente pour pouvoir bénéficier d'un secours au niveau alimentaire. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que depuis des choses ont été mises en place pour que ces étudiantes et ces étudiants dans ces situations de précarité alimentaire puissent avoir accès à une alimentation digne ? Astrid, si vous voulez bien.
Alors, nous, c'est vrai que, et là-dessus, je laisserai peut-être Charles répondre, parce que les étudiants et les étudiantes font évidemment partie, en fait, des personnes qu'on accueille. D'ailleurs, le Secours catholique a sorti la semaine dernière un rapport sur l'état de la pauvreté en France, et l'aide alimentaire, c'est le premier besoin exprimé par les personnes qui sont accueillies dans nos antennes. Je l'ai pas rappelé au début de mon intervention, mais... Le Secours catholique, c'est vraiment une association territoriale. On a 72 délégations partout en France hexagonale et en France en Outre-mer. Donc c'est vraiment un sujet qui, en fait, est absolument essentiel sur nos actions. Donc sur les étudiants, peut-être que je peux laisser Charles répondre et poursuivre après sur les personnes qui sont concernées par la précarité alimentaire, autre que le public étudiant, parce que c'est aussi un sujet important.
Nous, ce qu'on constate chez Copain, c'est que les chiffres de la précarité étudiante, ils stagnent depuis que l'association existe. Donc on a souvent entendu que la précarité étudiante, c'était un phénomène de crise lié au Covid, puis ensuite à l'inflation, et de coup sur coup, il y avait deux crises qui venaient taper les étudiants. Mais ce qu'on voit avec les chiffres, d'une étude qu'on réalise avec l'IFOP depuis 3 ans maintenant, c'est que les chiffres, ils sont stables. Depuis 3 ans qu'on les mesure, il y a un tiers des étudiants qui sautent régulièrement des repas par manque d'argent. 4 étudiants sur 10 qui refusent, qui peuvent pas chauffer leur logement par manque de moyens. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les chiffres stagnent. Et donc, ce n'est pas un problème conjoncturel lié à une crise, mais que c'est vraiment un souci systémique.
Très bien. Mais justement, pour revenir à la situation actuelle des étudiantes et étudiants sur notre territoire, est-ce que vous mettez en place des actions concrètes pour pouvoir y répondre au jour le jour, puisque c'est une urgence, l'alimentation, si on est bien d'accord.
Nous, à Copain, on est présent dans 28 villes maintenant. On a commencé à Paris il y a 5 ans et très vite, on s'est développé dans d'autres villes où on fait des distributions alimentaires toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fonction des villes. L'année dernière, on a distribué plus de 150 000 paniers d'aide alimentaire pour des étudiants. Et on ne fait pas que ça, on fait aussi des activités d'accompagnement pour sortir les jeunes de l'isolement avec de l'accès à la culture, au sport, à l'emploi. Donc on a énormément de choses, on essaie d'innover aussi. Donc là, ce soir, on est au restaurant La Copine où on propose une autre aide alimentaire. Donc c'est des repas à 3 euros pour les étudiants et les jeunes. Donc ça permet d'avoir des produits faits par des chefs avec des produits bio pour garantir une alimentation saine et à petit prix pour des étudiants.
Alors justement, vous venez de nous présenter le restaurant La Copine. Pouvez-vous nous dire comment l'idée du restaurant vous est-elle venue et aussi comment votre restaurant associatif fonctionne?
Donc l'idée, elle nous est venue du fait que l'association repose sur 2 piliers. Donc il y a l'aide alimentaire d'un côté et la lutte contre l'isolement de l'autre. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a 40% des jeunes qui se sentent souvent seuls ou isolés. Donc c'est aussi un réel souci et un problème pour la population étudiante. Donc on voulait faire un lieu qui combinait les deux, et aussi un des autres piliers qu'on porte, c'est le mieux manger et garantir une alimentation saine pour tous, peu importe les conditions de revenus. Donc c'est là qu'est né le projet de La Copine, donc un restaurant avec des repas à bas prix et de bonne qualité pour tous les étudiants qui souhaitent venir.
Merci.
Donc on a ouvert ce restaurant il y a 1 an. Donc pour le fonctionnement, on a 4 salariés, on a 2 chefs, un plongeur et une coordinatrice du lieu.
Tous bénévoles.
Donc là, c'est des salariés. Et après, salariés. Tout le reste du fonctionnement de l'association, donc le service en salle, la prise de commande. On a aussi des bénévoles qui aident en cuisine. Tout ça, c'est assuré par des bénévoles. Et donc, pour un restaurant qui fait 100 couverts par service 5 jours dans la semaine, et midi et soir, on repose que sur 4 salariés et après uniquement des bénévoles.
Alors, vous recevez les étudiants, mais d'un point de vue local ou tout Paris, région parisienne?
Donc on est ouvert à tous, donc après forcément on est mieux connu dans le 14e arrondissement où on est installé, mais on a des étudiants qui viennent un peu partout. On a des fois des bénévoles, des étudiants aussi qui viennent d'autres villes, qui sont à Paris pour un passage, qui viennent à La Copine pour manger pour pas cher et dans un lieu qui est sympa.
Très bien. L'alimentation joue malheureusement ce rôle de variable d'ajustement pour une partie de plus en plus grande de la population. Le Secours catholique intervient-il sur d'autres leviers que celui-là pour donner de l'air justement au budget pour se nourrir?
Oui, tout à fait, et c'est exactement ce que vous dites. En fait, l'alimentation, c'est la variable d'ajustement des ménages, et en fait, c'est là-dessus qu'on va faire des économies quand, à la fin du mois, on a pu en fait de quoi mettre dans son panier de courses. Alors, le Secours catholique, il agit vraiment sur toutes les facettes de la précarité, parce que, voilà, on l'a dit un petit peu en prémisse de cette émission, mais la précarité alimentaire, malheureusement, elle est systématiquement, en tout cas, corrélée, en fait, à d'autres formes de précarité qui vont être des précarités énergétiques, des précarités liées au logement. Donc, le Secours catholique a cette mission, et c'est ce que je disais un petit peu au début, mais vraiment d'agir sur toutes les causes de la pauvreté. Et là-dessus, pour nous, c'est important ce terme d'agir sur les causes de la pauvreté, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire aussi remettre en question des systèmes aussi d'aide alimentaire plus traditionnels, sans jamais pointer du doigt des individus, qui font voilà, des bénévoles, un travail absolument exceptionnel. Mais c'est aussi pointer du doigt un système qui ne va pas s'attaquer pour l'aide alimentaire aux causes profondes de la pauvreté, de la précarité alimentaire. Et c'est là-dessus où, en fait, et je rejoins un petit peu ce que disait Charles précédemment, parce que au Secours catholique, on met aussi en place des actions en fait d'accompagnement alimentaire qui vont essayer justement de respecter la dignité des personnes, et c'est là-dessus en fait qu'on va vraiment s'atteler dans cette mission de respecter en fait le libre choix des personnes, pour pas que les personnes vivent en fait des situations d'humiliation, de honte. Elles sont beaucoup en fait à venir nous témoigner cette honte.
Ça touche aussi les valeurs de chacun et de chacune.
Les valeurs de chacun et de chacune, mais plus spécifiquement en fait, on va voir que voilà, c'est très douloureux en fait pour les personnes en fait de. Et d'ailleurs, il y a en plus de ça un climat actuel qui fait que les personnes, voilà, il y a presque une chasse aux pauvres, qu'on peut le dire en ces termes-là actuellement. Donc c'est là-dessus, en fait, on veut vraiment agir sur le côté, bon, bah, essayer d'aller au-delà de cette honte et d'aller vers des formes d'accès à une alimentation plus digne. Vraiment, on parle d'accès digne à l'alimentation pour respecter, en fait, cet objectif-là qu'on se donne.
Oui, même quand on parle d'alimentation, on vient vite sur des dimensions de dignité, comme vous le parliez, mais aussi des dimensions de santé, qu'elles soient physiques mais aussi mentales. Il y a des études qui documentent, par exemple, une prévalence du taux d'obésité chez les personnes qui bénéficieraient d'aide alimentaire du fait de la qualité nutritive de la nourriture qu'ils recevraient. C'est des chiffres d'ailleurs qui sont en constante augmentation. Est-ce que quel regard en fait vous portez justement sur les liens entre l'alimentation et la santé?
C'est une excellente question. On a sorti l'année dernière une étude qui s'appelle « L'injuste prix de l'alimentation, quel coût pour la société et pour la planète ?» Et dans cette étude, en fait, on fait état de ce système alimentaire qu'on qualifie vraiment, et c'est ce que vous disiez, à bout de souffle, et de ces liens en fait qui existent entre alimentation et santé. Aujourd'hui, on a deux fois plus de risques d'être atteint d'obésité quand on fait partie des catégories les plus précaires de la population. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, va jusqu'à parler d'épidémie d'obésité ou de diabète. Et nous, sur ce volet-là, en fait, on essaye de vraiment sortir du mythe du consommateur en disant, mais voilà, en écoutant en fait la parole des personnes concernées qu'on accueille et qui nous disent, mais c'est pas que je veux pas accéder à l'alimentation qui va être bonne pour ma santé, c'est que je ne peux pas. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit précédemment, c'est la variable d'ajustement des ménages. Et donc voilà, on va avoir ce phénomène où plus les budgets sont serrés, plus les choix sont contraints. Et donc là-dessus, ça va vraiment avoir des effets délétères en fait sur la santé, d'une part physique. D'ailleurs, dans l'étude, on chiffre à plus de 11 milliards les effets de la santé les coûts en fait que met l'argent.
11 milliards d'euros du coup.
Voilà, 11 milliards d'euros pardon, pour vraiment en fait compenser les coûts de la santé qu'a le système alimentaire sur les personnes. Et là-dessus, c'est la santé physique, mais la santé mentale, en fait, c'est inquantifiable. Et on va vraiment avoir des personnes qui vont vraiment venir nous témoigner d'une part de cette honte, mais aussi qui est inquantifiable, et de cette envie, qu'on y reviendra plus tard, mais d'autres initiatives, d'autres alternatives, en fait, pour accéder à une alimentation qui soit respectueuse de la planète, mais aussi de sa santé.
Et Charles, justement, ce côté santé mentale, quand on échange avec des bénévoles qui viennent ici participer ou tout simplement manger ici, un des premiers motifs qui vient, c'est de recréer du lien social autour de l'alimentation dans un lieu qui est partagé, enfin rompre un peu l'isolement lié à notamment la précarité alimentaire. C'est donc un parti pris que vous avez à copain et à la copine.
Mais c'est ça, à la copine, on a fait le choix d'avoir des grandes tablées. On a aussi des jeux de société qui sont à disposition de tous. Donc un étudiant, il peut arriver seul, se poser à une table avec d'autres personnes et puis entamer un jeu de société ou une conversation pendant qu'il attend son repas. Et donc c'est une volonté qu'on a et c'est exactement ce que le lieu est devenu. Donc pour ça, on est super fiers de ce qu'on a pu faire. Et aussi de l'implication des bénévoles qui rendent le lieu chaleureux tous les jours. C'est quelque chose qui est super important pour nous de sortir les jeunes de l'isolement parce que quand on est précaire, on peut pas aller au resto avec des potes, sortir, se divertir. Et donc ça isole forcément parce qu'on est un peu contraint à rester chez soi.
Alors là, on va revenir à d'autres chiffres, les chiffres du gaspillage alimentaire, qui sont souvent avancés non pas pour interroger notre mode de production agricole, mais comme un potentiel réservoir pour l'aide alimentaire, et finalement comme une solution à la précarité alimentaire. Qu'en pensez-vous, Charles ?
Là-dessus, sur le fait de récupérer des invendus, c'est un casse-tête pour beaucoup d'associations. Parce que déjà, il y a les questions de logistique qui se posent, d'aller faire la tournée des supermarchés pour récupérer des invendus. Et ensuite, sur la qualité des produits, parce que récupérer des dates courtes ou des produits qui sont à la limite de la péremption, ça pose un souci éthique de savoir est-ce qu'on veut vraiment être la poubelle d'un système agroalimentaire qui surconsomme. Donc là-dessus, nous, c'est une question qu'on essaie de traiter à Copain. On récupère pas beaucoup d'invendus directement, mais on travaille avec des associations qui le font. Donc on tisse des partenariats avec des associations pour proposer des produits pour éviter le gaspillage, mais aussi garantir une alimentation digne à tout le monde.
Et vous, Astrid ?
Alors, en fait, ce qu'on n'a pas suffisamment rappelé, c'est que le constat de la précarité alimentaire, il est d'autant plus alarmant que, justement, ça touche les deux côtés de la chaîne alimentaire. Et qu'on a donc 8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir 18% des agriculteurs et des agricultrices qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que, justement, on a ce constat au Secours catholique de se dire... On veut que la lutte contre la précarité alimentaire soit dissociée de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On estime que, effectivement, aujourd'hui, l'aide alimentaire, elle a été construite presque sur ce modèle, en fait, de découler les rebuts de la grande distribution qui ne savait pas, en fait, quoi faire de toutes ces quantités de denrées alimentaires. Et là-dessus, en fait, c'est là où on se dit on peut plus en fait réfléchir comme ça, et c'est ce que disait Charles, on peut plus en fait parler de lutte contre la précarité alimentaire qui soit corrélée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les personnes pauvres ne sont pas effectivement les poubelles de l'agro-industrie.
Justement, il y a eu une loi, la loi Garot, qui a été adoptée en 2016, avec pour intention d'afficher à l'époque de lutter contre le gaspillage en permettant notamment aux grandes surfaces de défiscaliser les invendus donnés aux associations. On se rappelle à l'époque de certaines polémiques autour de certaines pratiques aussi, de la plupart des grandes surfaces de mettre de l'eau de Javel sur des invendus pour qu'ils ne soient pas récupérés dans les bennes. Quel impact ont eu cette loi dans le secteur de l'aide alimentaire, et est-ce que finalement ça a permis de lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Alors déjà sur cette loi-là, et je pense que c'est aussi, nous, le Secours catholique était un des fondateurs des banques alimentaires en 1984. Ensuite, on s'est dissocié en fait de ce modèle-là, notamment aussi parce que il y avait un sujet autour de l'opinion publique sur ce côté de toutes ces quantités en fait d'aliments qui sont jetés. Donc déjà dans les années 80 avec Coluche et ensuite plus récemment avec la loi Garot. Donc c'est important quand même de revenir sur cet élément-là, de se dire que in fine c'était aussi voilà, pour l'opinion publique, de se dire on peut pas gâcher autant de nourriture. Sur l'impact que ça a eu cette loi-là, en réalité, nous, on va pas être une association qui va dépendre absolument de l'aide alimentaire. On va plutôt... On voit qu'il y a d'autres politiques publiques qui sont mises en place. Il y a le fonds Mieux manger pour tous, et on pourrait y revenir, qui a cette ambition en fait de transformer le modèle de l'aide alimentaire, de la rendre plus durable, plus de qualité. Mais voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, nous, au Secours catholique, on va moins être en fait impacté par ces lois-là que peut-être des associations comme Copain.
Et si on parle de lois comme ça, c'est un peu des solutions comptables à un problème qui ne l'est pas, de dire il y a du déchet alimentaire, donc on va faire de l'aide alimentaire avec. ça ignore toute la partie retraitement des produits qu'il y a derrière, et aussi toute la partie liée à la santé et à la dignité des personnes à qui on va donner ces produits. Donc c'est pas une solution qui est viable, selon moi.
Donc aujourd'hui en France, le droit fondamental à l'alimentation n'est pas encore inscrit dans la Constitution française, hein, contrairement par exemple au droit au logement. En revanche, l'État a déjà pris l'engagement, un engagement par rapport au droit à l'alimentation, comme je le disais dans l'édito, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans un autre texte de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Néanmoins, la constitutionnalisation de ce droit à l'alimentation, c'est quelque chose qui fait régulièrement débat au sein de nos institutions. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'une inscription dans la Constitution, par exemple, ça changerait la donne, finalement?
Oui, tout à fait. En fait, il est vrai que la France, en fait, a pris des engagements internationaux depuis des années sur le droit à l'alimentation. Et en réalité, pour nous, c'est absolument essentiel que la France, en fait, vraiment prenne en compte cet engagement-là qui existe, qui est ratifié. Pourquoi en fait c'est important pour nous? Parce que au cœur en fait du droit à l'alimentation, c'est tout l'enjeu systémique de l'alimentation qui est lié. Donc on va avoir vraiment l'enjeu du côté des mangeurs, des mangeuses, des consommateurs, consommatrices, mais aussi l'enjeu de la durabilité, l'enjeu de la juste rémunération des agriculteurs, des agricultrices. Donc aujourd'hui pour nous c'est une réelle boussole en fait le droit à l'alimentation sur laquelle on va se baser. Aujourd'hui il y a pas aujourd'hui justement plutôt. Dans quelques mois, il y a les élections municipales et avec différents partenaires, dont Action contre la faim, dont le réseau VRAC, on a créé une alliance pour en fait mettre en œuvre de manière effective le droit à l'alimentation au niveau local en utilisant en fait nos expertises communes pour le mettre en tout cas de manière effective au niveau local.
Ben, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, notamment plus tard dans l'émission, le rôle des municipalités ou à une échelle plus locale. Néanmoins, c'est l'heure de marquer une petite pause avec le morceau Love de Sébastien Tellier. C'était Love de Sébastien Tellier.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Lorsqu'on évoque la solidarité alimentaire, on pense souvent aux distributions. Et pourtant, il existe d'autres initiatives, comme par exemple La Copine, où nous sommes encore ce soir. Mais aussi à Pantin, par exemple, avec le lieu qui s'appelle La Butinerie, qui propose une cantine participative. Dans ce tiers-lieu, les habitants cuisinent et mangent ensemble, le tout à un prix très accessible. Lia Roisin-Pilot s'est invitée pour nous le temps d'un midi.
Vêtue d'un grand tablier, Jenna émince soigneusement les poireaux. Cet habitant de Bobigny a sauté le pas. C'est son premier atelier à La Butinerie.
Ça m'a intrigué un peu et en fait j'aimais bien le concept de pouvoir partager des moments de cuisine ensemble. Et depuis je me suis dit qu'il fallait que je vienne. Et là c'est l'opportunité parce que je suis actuellement au chômage. Et du coup je voulais passer un peu de temps à venir visiter l'endroit et faire l'atelier.
Accompagnés d'un cuisinier, ils sont 5 à préparer le repas. Les épluchures de légumes s'entassent au milieu de la table. Cette cantine participative est ouverte à tous du mercredi au samedi. Et au menu ce midi,
des sushis végétariens et avec un bouillon miso. Et je ne suis pas occupé du dessert, mais en tout cas, j'ai très faim. Ce qu'on apprend ici, c'est vraiment le côté les découpes, les préparations qu'il faut faire avant vraiment de passer à table. Et toutes ces étapes-là, moi je les découvre, je ne connaissais pas et je trouve ça très intéressant. J'ai un peu l'impression d'être dans une vraie cuisine, dans un restaurant où on est avec tout le monde et il y a plein de trucs à faire. Et on a chacun notre spot, on va dire. J'aime bien l'ambiance. Les gens sont amicaux et je sens qu'on peut très bien devenir très... proche de ces personnes. C'est sûr que je vais y revenir et découvrir encore plus de plats et de cultures différentes.
Et juste voilà, tu vérifies bien, si ça paraît un peu fatigué comme ça, tu enlèves. Okay. Et si tu vois des petits grains de sable, des petits grains de terre, là tu peux... Normalement, je les ai bien nettoyés, mais s'il y en a... Là,
en plus de l'espace cantine, un magasin Biocoop est installé au sein même du tiers-lieu. L'objectif, approvisionner directement la cuisine, et ce, avec des produits bio, locaux et végétariens. Yann Viala est directeur de La Butinerie.
La Butinerie, elle a été construite entre deux quartiers. Un quartier qui est accolé à la cantine, qui est le quartier un peu gentrifié, nouveau quartier qu'on appelle Newport, et un quartier qui est plutôt de l'autre côté accolé à la Biocoop, qui est un quartier plus populaire, qui est le Petit Pantin. Et au milieu, on va avoir un espace de vie sociale où les gens vont pouvoir se rencontrer. Ça, c'est l'aspect intellectuel. Dans la réalité, c'est pas si simple que ça, mais dans la cantine, c'est ce qui se passe. En fait, dans la cantine, il y a une réelle mixité des personnes qui viennent. Ces personnes, elles viennent gratuitement. Il n'y a pas de prix à payer pour l'atelier ou quoi que ce soit. On vient comme on est, il n'y a pas de problème. Et après, le seul prix qui est à payer, en fait, c'est le prix du repas, qui, lui, est un prix conscientisé à partir de 5 euros.
5 euros, c'est peu, mais ce n'est pas accessible à tous. Alors, pour y remédier, des prix suspendus vont être mis en place.
Alors, suspendu, ça veut dire que tu viens, toi, en tant qu'habitante, tu as les moyens de te payer le repas. Si toi, tu es en capacité de dire, moi, je paye 10 et je veux bien payer 10 de plus pour qu'une personne puisse venir manger gratuitement parce qu'elle ne peut pas se le permettre. Nous, on va faire un petit bon, on va l'accrocher. Et du coup, une personne qui est un SDF, une personne qui ne peut pas, non, une personne du refuge, va pouvoir venir prendre le ticket et du coup, ça lui fera un repas.
Ce système de solidarité ne remplace pas la distribution alimentaire, mais il la complète.
Contrairement aux Restos du Cœur qui, eux, vont être dans la distribution en fait, de repas, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est ni dans le stockage ni dans la distribution de repas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir des cantines solidaires ou des associations type Le Réchaud qui, elles, vont venir faire des repas dans nos cuisines et vont pouvoir les distribuer après dans la rue. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et après, en termes de solidarité, en fait, ça va être avec les personnes du quartier où on va travailler avec des acteurs. Et c'est là où on reprend toute la coopération. En fait, on va travailler avec le refuge qui est un accueil de jour, par exemple, où des personnes du refuge vont pouvoir venir manger ou même plus loin vont pouvoir venir à nos événements.
Entre-temps, les cuisiniers ont mis le couvert. D'autres habitants se sont joints à eux et l'odeur du bouillon embaume la pièce.
Bon appétit tout le monde. Bon appétit.
Bon appétit.
Bon appétit.
Bon appétit.
Bon appétit. Bon appétit.
Et demain mardi 25, la butinerie organise justement sa première table ronde au programme La sécurité sociale de l'alimentation. Tiens, tiens, c'est gratuit et c'est à partir de 19h.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Donc nous sommes toujours en direct du restaurant étudiant solidaire La Copine dans le 14e arrondissement avec Astrid Oligné du Secours catholique et Charles Cuillier de l'association Copain. Charles, on vient d'entendre donc un sujet sur un lieu qui contribue à renouer avec l'alimentation, notamment sur un format plus participatif. Est-ce que ça fait écho un peu à votre organisation, à La Copine ou alors même à Copain en général?
Oui, c'était super intéressant comme reportage parce qu'on voit que les initiatives de cantines solidaires, elles se multiplient un peu partout. Et donc ça montre bien le besoin de solidarité et l'envie des personnes de s'engager dans des actions solidaires comme ça. Donc avec un modèle où on est à la fois acteur et bénéficiaire du dispositif. Donc c'est ça qui est super intéressant. À La Copine, on a des bénévoles qui cuisinent pendant le service et après qui partagent le repas aussi avec toute l'équipe. Donc c'est un modèle convivial qui est vraiment chouette à découvrir.
Et ces différents lieux qui ont cette organisation et ce format-là de participation, est-ce que vous vous échangez? Est-ce qu'il y a des réseaux, des organisations, des fédérations, de lieux un peu comme ça?
Donc nous, à La Copine, on a monté une coopérative d'achat avec d'autres cantines solidaires dans Paris, où on va grouper nos achats de fruits et légumes, et comme ça nous revient un peu moins cher. Et globalement, dans le monde de la solidarité, ça reste un monde où on se connaît bien les uns les autres, donc on communique souvent entre nous, on se file des tuyaux, on s'entraide si on peut, donc c'est assez sympa d'évoluer dans ce milieu-là.
Et Astrid, est-ce que justement ces nouveaux formats, un petit peu d'aide alimentaire autre que les distributions, est-ce que c'est quelque chose au Secours catholique que vous avez observé récemment ou pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un regard?
Alors, au-delà d'observer, on met en place énormément de projets en fait, quand même d'aide alimentaire qui vont justement respecter la dignité des personnes. Donc, nous, notre ambition, c'est vraiment en fait de permettre aux personnes d'avoir une alimentation saine et de qualité avec différentes actions. Alors, on a des épiceries sociales. Des épiceries voilà qui vont permettre aux personnes de venir aller faire leurs courses avec voilà des personnes aussi qui ne sont pas forcément en précarité alimentaire, justement pour lutter contre cette stigmatisation, cette honte. On va aussi avoir des paniers proposés aux personnes, des paniers frais solidaires qui vont être justement travaillés avec des agriculteurs et des agricultrices qui vont d'une part permettre aux agriculteurs de vendre leurs légumes à des prix qui leur permettent de vivre dignement, mais aussi aux personnes d'accéder en fait à ces légumes. On va aussi avoir, comme le disait Charles, des groupements d'achat, des personnes qui vont se réunir en groupe et qui comme ça vont pouvoir en fait baisser les prix sur plutôt la quantité et non pas sur la qualité.
Eh bien, merci pour ces éclairages sur ces nouvelles initiatives d'aide alimentaire. Maintenant, passons au vrai sujet du jour, autour de la sécurité sociale de l'alimentation, pour établir des perspectives un petit peu. Alors, pour expliquer concrètement à quoi ça pourrait ressembler, ça pourrait ressembler finalement à l'idée du premier régime général de la sécurité sociale dans le système de santé, avec notamment une carte vitale de l'alimentation qui donnerait accès à des produits conventionnés. Alors, sur les modalités, sur le montant alloué sur cette carte par mois et dans quelques... rien n'est fixé. Et justement, des expérimentations ont lieu en ce moment en France, un petit peu partout. Est-ce que, Charles, il me semble que vous avez participé à ce type d'expérimentation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe?
Exactement. Donc, l'année dernière, avec la ville de Paris, on a mené une expérimentation pendant un an, qui s'appelait la MIAM, où on avait deux panels d'étudiants de 100 personnes chacun. Un avec une carte bancaire allouée de 125 euros par mois à dépenser dans des magasins conventionnés. Donc il y avait des épiceries bio, des maraîchers bio, etc. Et un autre panel d'étudiants qui n'avait pas cette aide économique-là. Donc pendant un an, on les a suivis avec des chercheurs pour voir comment changer leurs habitudes alimentaires, comment changer leur bien-être aussi. C'est un système qu'on a co-construit avec les étudiants pendant toute l'année. Donc c'était un projet de recherche-action où les étudiants étaient impliqués dans le dispositif et donc c'était bénéficiaires et acteurs du projet. Donc pendant un an, on a travaillé sur ce projet-là et donc on a eu des retours assez positifs avec des étudiants qui se sentaient mieux, qui avaient vraiment pris en main leur alimentation, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc qui parlaient d'alimentation avec leur coloc pour savoir quelle bonne pratique était à adopter, qui se sentaient aussi mieux dans leur peau. Et on a des bénévoles, par exemple, qui venaient témoigner que ce dispositif-là, ça a été un soutien psychologique qu'il a été apporté, plus qu'un soutien vraiment matériel.
Et ça s'est fini quand, cette expérimentation ?
Donc ça a duré un an, ça s'est fini en juin dernier. Donc on a eu un événement aussi à La Copine pour fêter ce beau projet qui a duré un an. Et donc cette année, on conduit un projet un peu différent, à plus grande ampleur. Donc c'est un projet qu'on mène avec l'ANSA au sein de Copain. Donc c'est un projet de recherche-action aussi, mais qu'on va cibler sur 7 villes en France, donc de typologies différentes. Il y a Paris, Nancy, Saclay, il y a Pointe-à-Pitre aussi, pour citer quelles. Donc pour voir dresser un constat de qu'est-ce que c'est la précarité étudiante aujourd'hui en France et co-construire ensuite des dispositifs avec les personnes concernées pour essayer d'apporter une solution.
Et Astrid, est-ce que vous, Secours catholique, alors est-ce que déjà vous portez des initiatives ou des expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation, ou est-ce que vous en observez ? Il me semble que vous en avez, que du moins vous en avez étudié. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Tout à fait. Alors, il est vrai que le Secours catholique ne soutient pas la proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation à grande échelle, mais par contre, on fait les mêmes constats que le collectif qui porte cette proposition-là, le constat d'un système alimentaire à bout de souffle, le constat en fait d'un besoin d'agir de façon systémique sur l'accessibilité financière, sur l'offre alimentaire et notamment sur la participation des personnes concernées dans leur dans toutes les formes d'accompagnement d'aide alimentaire. Et donc, effectivement, on soutient différentes expérimentations, différentes caisses alimentaires, notamment parce qu'elles assurent en fait la participation des personnes concernées. C'est le cas à Montpellier, où il y a une caisse alimentaire qui a été lancée en janvier 2023, donc ça fera bientôt 3 ans, avec 400 personnes. Et donc cette caisse, elle est vraiment partie du besoin des personnes. Pour nous, c'est très important de partir justement de cette, comment dire, des personnes directement concernées par la précarité alimentaire. Et donc c'est des personnes qui travaillaient depuis plusieurs années avec le Secours catholique, mais aussi des réseaux agricoles, sur des nouvelles formes de solidarité alimentaire qui prennent en compte en fait les dimensions systémiques en fait de l'alimentation. Et donc, comment ça se passe à Montpellier ? C'est en fait des personnes qui vont se réunir dans un comité citoyen de l'alimentation et qui vont en fait travailler, gérer démocratiquement leur accès à l'alimentation. Elles vont, donc cette caisse, elle répond au principe de la SSA, donc le principe de l'universalité de l'accès, le principe de conventionnement avec des professionnels, avec des agriculteurs et des agricultrices qui respectent les conditions que le collectif s'est donné, et enfin la cotisation sociale. Et donc les personnes, elles vont cotiser selon leurs moyens à Montpellier et elles vont chacune ensuite recevoir 100 euros en monnaie locale, la mona, qui est une monnaie numérique. Et en fait, elles vont, grâce à ce dispositif de monnaie, pouvoir aller chez des commerçants qui, en fait, ont été conventionnés, donc qui sont jugés comme étant, en réalité, partenaires de la caisse.
Et Astrid, par rapport à cette nouvelle initiative mise en place à Montpellier, est-ce que vous avez pu constater une différence au niveau de la consommation de produits plus sains, si on peut dire ça dans ce sens-là ?
Oui, tout à fait. En réalité, c'est ce que je disais au début de mon intervention. Les personnes, en fait, c'est moins le fait qu'elles ne veulent pas. C'est vraiment la possibilité qui n'est pas permise aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même des injonctions qui sont contradictoires avec des messages gouvernementaux qui vont être manger 5 fruits et légumes par jour. Alors quand on est maman solo, quand on est travailleur pauvre ou quand on est étudiant, qui peut se payer 5 fruits et légumes par jour ? C'est mission impossible. Donc aujourd'hui, en fait, et que ce soit dans la caisse à Montpellier ou que ce soit dans d'autres expérimentations de transferts financiers, par exemple, les personnes, elles nous témoignent, en fait, le fait de justement manger, pouvoir enfin manger plus de légumes, pouvoir aller manger des fruits frais. Elles nous le disent, en fait, que leurs enfants... on sont ravis qu'ils peuvent en fait manger des choses qui conviennent et à leur régime alimentaire et aussi à leur santé, notamment pour les personnes qui sont atteintes de diabète.
Oui, justement, par rapport à, pour revenir à la précarité pour les familles ou même pour les étudiants, le porte-monnaie consacré pour l'alimentation est souvent une charge mentale. Est-ce que vous pourriez dire que ces nouveaux systèmes qui sont mis en place aujourd'hui peuvent aider au niveau psychologique aussi à se sentir mieux?
Oui, bah là-dessus, je rejoins Astrid. Globalement, les gens ne sont pas bêtes. Quand ils peuvent acheter des bons produits plutôt que des produits ultra transformés, ils vont se tourner vers les bons produits. Mais ça représente un coût qui est plus important. Et donc, c'est un coût qui est compressible pour les personnes. Et quand on leur donne un fonds qui est alloué justement à l'alimentation, ils n'ont plus cette question d'arbitrage à faire entre est-ce que je vais chauffer mon logement ou est-ce que je vais manger deux fois par jour ou trois fois par jour. Ils vont se tourner vers des bons produits, vers des rayons dont ils ne regardaient même pas avant, les rayons des produits frais, des fruits et légumes, etc. Donc si on donne le moyen aux gens de s'alimenter correctement, ils le font.
Et autour de ces initiatives de la sécurité sociale de l'alimentation, on rappelle le rôle prépondérant finalement des collectivités locales, notamment des mairies. Même à la copine, quelle relation vous entretenez avec la mairie? Est-ce que c'est un projet qui est soutenu par la mairie? De quelle manière? Et aussi sur les différentes initiatives dont vous avez parlé sur la sécurité sociale de l'alimentation, est-ce que vous êtes en lien avec ces mairies justement?
Donc pour le projet de la copine spécifiquement, on est très en lien avec la mairie du 14e. Donc c'est un local qui est juste à côté de la place Alice Guy. Et donc la mairie voulait une structure qui puisse animer ce local et aussi qui puisse animer de temps en temps la place qui est sous-utilisée par l'arrondissement. Et donc nous, on s'est aussi greffé à ce projet-là avec comme ambition de dynamiser un peu le quartier et la place qui est juste à côté. Et pour le projet de la sécurité sociale de l'alimentation, donc la MIAM qu'on a menée l'année dernière, on était subventionné et accompagné par la mairie de Paris, donc pas la mairie d'arrondissement, la grande mairie.
Et donc finalement, Astrid, vous en parliez tout à l'heure du rôle prépondérant des mairies. C'est donc un enjeu finalement qui pourrait aussi être identifié par l'électorat aux approches des élections municipales à venir sur ce genre de projet.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de mairies qui s'emparent déjà du sujet. Et nous, en fait, ce qu'on propose au Secours catholique avec nos partenaires, c'est justement des recommandations pour garantir au niveau local la mise effective de ce droit à l'alimentation pour un accès digne des personnes à une alimentation saine et de qualité. Et donc... les mairies, en réalité, elles ont différentes compétences qui leur permettent d'agir directement, d'orienter au niveau local les politiques publiques locales, encore une fois, qui vont permettre aux personnes d'accéder à une alimentation de qualité. Et là-dessus, pour donner un exemple très concret, on pense beaucoup aux caisses alimentaires, etc., mais il y a aussi tout ce qui est autour de l'environnement alimentaire. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour les personnes... de pouvoir en fait aller chercher des légumes frais à moins de 15-20 bornes en fait de chez elle. Et là-dessus, en fait, c'est une réalité qui est en fait très présente, notamment dans les milieux plus ruraux, où en fait il n'y a pas d'offre alimentaire autour de chez soi. Et là-dessus, en fait, c'est vraiment une compétence des municipalités. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas ce qu'on dit nous, c'est voilà, de se dire il faut absolument que les municipalités, que l'alimentation soit aussi un enjeu local.
Et du coup, si c'est un enjeu non seulement local, mais ça pourrait aussi être une initiative qui pourrait être transformatrice de l'agriculture à une échelle plus globale aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce levier-là?
Alors, évidemment... quand on parle alimentation, on pense toujours à l'échelon local qui est absolument essentiel parce que on a aujourd'hui évidemment des problèmes d'accès au foncier. C'est aussi ce qu'on dit notamment sur nos recommandations sur les municipales. Quand on parle alimentation, tout est lié. On peut pas parler alimentation et seulement parler de ce qu'il y a dans nos assiettes. Il faut aussi parler de la production, de la transformation. Donc
voilà, on a cet enjeu local qui est absolument essentiel. Et ensuite, de manière plus macro, on a évidemment l'orientation des politiques publiques aujourd'hui en matière d'alimentation. J'y reviens, c'est ce qu'on a sorti l'année dernière dans la juste prix de notre alimentation. C'est en fait, aujourd'hui, quelle est la boussole qui nous guide en matière d'alimentation au niveau des politiques publiques. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des financements publics, et aujourd'hui le système alimentaire est financé à hauteur de 48,3 milliards d'euros, qui vient irriguer en fait ce système alimentaire. Et aujourd'hui, ces soutiens publics, ils vont notamment soutenir les modèles dominants, que ce soit dans le niveau de la production, mais aussi dans le niveau de la transformation et le niveau de la distribution. Donc, évidemment qu'il y a l'échelon local qui est absolument essentiel et sur lequel il faut travailler, mais on travaille aussi au niveau national à l'orientation nationale des politiques publiques.
Et en ce sens, j'aimerais insister sur un point, c'est sur l'aspect financement de cette sécurité sociale de l'alimentation. Les expérimentations auxquelles vous avez participé, pour l'instant, comment elles sont financées? Elles sont financées uniquement avec les cotisations ou elles bénéficient de budget en plus?
Donc sur le système de la MIAM, il n'y avait pas de cotisation, c'était un système qui était vraiment expérimental et qui ne coûtait rien aux étudiants. Et donc on était subventionné par la mairie de Paris à hauteur de 100 000 euros. Donc là sur le projet aussi qu'on mène avec l'ANSA cette année, on est aussi subventionné. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important de bien voter au municipal, c'est parce que des projets ils peuvent naître que si les mairies sont pas vraiment partie prenante de ces projets et veulent les financer et les construire.
Et in fine, le collectif qui porterait la forme, entre guillemets, finale d'une sécurité sociale de l'alimentation étendue et globale, ce serait via un système de cotisation sur le salaire directement, c'est-à-dire que ça passerait pas par une enveloppe budgétaire de l'État, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est fondamental dans cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, qui s'inspire un peu du premier régime général de 1946 sur la sécurité sociale dans le système de santé?
Oui, pour eux, en tout cas, de nouveau, le Secours catholique soutient ce collectif, mais n'en fait pas partie. Donc, c'est juste pour rappeler une petite nuance. Après, comme je le disais, les piliers de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est vraiment l'universalité, le conventionnement et la cotisation sociale. Pour le cas de la caisse à Montpellier, les personnes cotisent, donc elles suivent vraiment en fait ce principe de cotisation sociale en fonction de ses moyens. Après, et c'est aussi le cas à Montpellier, la caisse bénéficie également de fonds privés, de fonds publics. Donc aujourd'hui, cette expérimentation-là, elle existe aussi grâce à d'autres financements.
Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous deux pour cet échange. C'est déjà la fin de cette matinale. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet, nous ne pouvons que vous conseiller deux ouvrages. Un de Bénédicte Bonzi, La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires de la collection Anthropocène aux éditions du Seuil, mais aussi le bouquin de Benjamin Seize, Quand bien manger devient un luxe, en finir avec la précarité alimentaire aux éditions de l'Atelier. Merci à vous deux, Charles, Astrid, et merci Yamina. Et merci aussi aux bénévoles qui ont participé à cette matinale, Moustapha, Lia Roisin-Pilot, Vaudoussi et Thibault à la Réal, Pierre à la Technique. Et aussi merci évidemment à l'ensemble des services civiques de Radio Campus qui permettent à cette matinale de vivre. Et merci aussi à la copine, quand même, qui a gentiment accepté de nous accueillir pour ce format hors les murs. Et merci enfin à vous, auditoristes, d'avoir été là aujourd'hui en présentiel ou sur nos ondes.